L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Afrique en marche. Nous allons évoquer la demande officielle formulée par l'Algérie pour adhérer au BRICS, un club de pays formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ensuite, nous analyserons les problèmes que rencontrent les pays africains pour lever des fonds sur les marchés financiers internationaux. Je suis Kamal Louadj, je vous accompagnerai durant cette nouvelle édition avec mes invités, le docteur Mohamed Achir, économiste, et le docteur Lachmi Siyar, financier international. Lors d'un entretien télévisé en juillet, le président algérien avait évoqué la possibilité que son pays adhère au BRICS, le groupe constituant une force économique et politique et permettant de s'éloigner de l'attraction des deux pôles Est-Ouest selon Abdelmadjid Tebboune. Aujourd'hui, c'est chose faite. Alger a officiellement déposé une demande d'adhésion au BRICS, vivement saluée par la Russie, en attendant les positions officielles des autres membres du club. Concernant les capacités réelles d'Alger à intégrer les BRICS, le chef de l'État algérien avait affirmé que l'adhésion était tributaire de conditions économiques auxquelles l'Algérie satisfait en grande partie. Dans le même sens, il a souligné le 24 septembre que parmi les objectifs de son gouvernement figurait le développement du revenu national d'une manière qui permette au pays d'entrer dans le groupe des BRICS. Pour rappel, le Nigeria n'exclut non plus de rejoindre le format alors que l'Afrique du Sud en fait partie depuis 2011. Dans cette optique, l'axe Alger-Abuja-Pretoria sera-t-il le pivot sur lequel va s'articuler la coopération de l'organisation avec l'Afrique? Et si l'Égypte intègre également ce club, l'ex-Alger-Le-Caire sera-t-il la locomotive de l'Afrique du Nord qui permettra la jonction avec le Moyen-Orient? Quelles seront les retombées sur les plans politiques, économiques, militaires et géostratégiques? Pour répondre à ces questionnements, l'Afrique en marche reçoit Mohamed Achir, économiste et enseignant à l'université Mouloud Mamri à Tizi Ouzou.
Monsieur Achir, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien concernant une question qui est très très importante en ce moment, notamment dans le contexte international, et qui est la demande officielle déposée par l'Algérie auprès des BRICS pour y adhérer, pour adhérer à ce club. Donc, premièrement, quelle est votre réaction par rapport à cette demande officielle, vu que le président algérien, on a déjà parlé et avait promis qu'il y aurait des nouvelles positives. Et avant ça, je rappelle aussi que la Russie a tout de suite salué le dépôt de cette demande officielle par l'Algérie, en attendant bien sûr les positions des autres membres qui vont s'exprimer sur ça.
D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, l'Algérie a déposé officiellement sa demande, ou bien il a exprimé officiellement sa demande d'intégration du bloc des BRICS, donc en déposant des demandes de nouveau des représentations diplomatiques des cinq pays des BRICS. Donc cela, effectivement, c'est dans la lignée du président de la République. Donc, il y a quelques mois quand même, il a réitéré cette volonté et cette demande d'intégration des BRICS. D'abord, le contexte actuel est un contexte qui donne des signaux quand même de redéfinition des relations internationales et des équilibres économiques au niveau mondial également. C'est un contexte qui réitère également un certain nombre de revendications anciennes des pays du Sud, mais aussi des pays émergents quant à la réalisation d'un certain équilibre et d'une certaine équité dans les relations économiques et politiques internationales. Donc, nous assistons quand même à des initiatives et même au déblocage diplomatique de certains pays hein, par rapport à cette multipolarisation des relations internationales, le vœu de rentrer dans une multipolarisation ou bien un monde multipolaire et de renforcement des relations multilatérales. Cela dit que tous les pays, je crois maintenant, ont intérêt à défendre leurs intérêts et leur position dans le monde, mais avec une vision, bien sûr, qui s'affranchit de la relation classique dominant-dominée, mais une relation de gagnant-gagnant, une relation de polarisation multipolaire, c'est-à-dire chaque bloc régional ou chaque groupe de pays peuvent s'affirmer avec leurs bien sûr, leurs intérêts, leurs relations et surtout leur indépendance, c'est-à-dire s'affranchir d'une certaine tutelle classique exercée. Et il y a maintenant, enfin, on peut dire que depuis les colonisations, passant par, bien sûr, d'autres instruments de néocolonialisation et de la mondialisation néolibérale. Donc, il y a une prise de conscience, je crois, de la part d'un certain nombre d'États. Mais concernant l'Algérie, l'Algérie était pionnière en termes de revendication d'un nouvel ordre économique mondial. Ça remonte aux années 70 et elle a toujours médité pour le non-alignement d'abord dans les relations internationales par rapport aux conflits, aux guerres, aux crises, etc., mais aussi par rapport aux droits des pays du Sud, surtout des pays nouvellement indépendants des années 60-70, et leur droit, bien sûr, leur droit à avoir un poids aussi dans la définition des relations politiques internationales et dans la répartition des financements au niveau des institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Voilà, donc l'Algérie est pionnière en termes de cette démarche multilatérale et multipolaire.
D'accord, ben, je vous remercie pour cette première réponse. Ma deuxième question, maintenant abordons l'aspect central de cette demande d'adhésion officielle, qui n'est pas juste de la part de l'Algérie, mais il y a d'autres pays africains qui sont très importants, dont les économies sont très importantes, comme le Nigeria et comme l'Égypte. Donc, je commençons par l'idée d'un axe de développement qui est une ancienne idée aussi, Alger, Abuja et Pretoria. Est-ce que vous pensez que, vu que ces pays, c'est-à-dire l'Algérie et le Nigeria, désirent adhérer au BRICS, est-ce que vous pensez que cet axe-là pourrait, avec le potentiel économique qu'il a, avec les infrastructures qu'il a, pourrait jouer le pivot sur lequel va s'articuler la coopération entre l'Afrique et les BRICS? L'Afrique subsaharienne, je veux dire.
Oui, justement, l'Algérie, elle a même initié avec un certain nombre de pays, notamment l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle le NEPAD, c'est-à-dire un nouveau plan de développement économique pour l'Afrique. Donc, l'Algérie, elle a toujours soutenu une approche panafricaniste de développement qui s'affranchit toujours d'une certaine tutelle que ce soit politique ou économique. Donc, l'Algérie a toujours milité pour un développement intra-africain, entre les pays africains, et pour un nouvel ordre économique africain aussi, qui renforce l'intégration africaine et qui renforce même sur le plan politique, c'est-à-dire les positions des pays africains pour qu'ils défendent l'intérêt de l'Afrique, de toute l'Afrique. Donc là, je pense effectivement, actuellement, il y a des PIB quand même assez importants en Afrique. Les quatre premiers PIB de l'Afrique, donc nous avons le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Donc ces pays constituent aujourd'hui en quelque sorte la locomotive économique de l'Afrique en termes de croissance, de développement, même en termes de diversification économique. et de lutte contre les injustices et la pauvreté. C'est vrai que dans certains pays africains, il y a toujours des problèmes en termes qualitatifs, mais l'Algérie, il faut le noter quand même, est classée première en Afrique en termes d'indice de développement humain. Donc, le développement économique et social algérien est un développement qualitatif. Il n'est pas seulement quantitatif, si on le compare à un certain nombre de pays qui ont réalisé quand même quantitativement un PIB très important. Mais ce qui est très positif pour l'Algérie, c'est cette capacité de réaliser un développement qualitatif, c'est-à-dire qui met au centre le développement humain, le développement social, l'équité, la justice sociale. Donc, l'intégration de ces pays, ce qui fait l'Algérie également, elle essaye surtout avec les projets qu'on a maintenant, le gazoduc transsaharien vers le qui viendra du Nigeria jusqu'à Hassermel, le projet de bien sûr la route transsaharienne et le projet de fibre optique aussi qui est déjà au Mali. Donc tous ces projets ainsi que la ZLECAF, la zone de libre-échange africaine, donc c'est des projets qui renforcent l'intégration davantage de l'Afrique et même qui renforcent aussi l'investissement intra-africain. Donc ça c'est très important parce que l'Afrique maintenant constitue, on peut dire que une visée économique, hein, c'est-à-dire elle est visée par toutes les puissances mondiales. Hein. C'est pour cette raison que l'Afrique doit renforcer davantage sa coopération et renforcer davantage son intégration sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan d'intégration financière, pourquoi pas, en mettant des institutions supra-africaines qui vont intégrer des politiques financières, budgétaires, monétaires, donc en perspective, bien entendu. Hein. Mais c'est une ambition qu'il faut se fixer pour l'Afrique. Maintenant, les BRICS, si on parle des BRICS, l'Afrique du Sud a adhéré aux BRICS avec un PIB de 400 milliards de dollars. Donc, c'était en 2011. Donc, cela veut dire que les BRICS, d'abord, les BRICS fondamentalement, ou bien les fondements objectifs de la création des BRICS consistent en la redéfinition des relations économiques internationales. C'est-à-dire, c'est pour remettre un peu en cause ce qu'on appelle le consensus de Washington, hein, qui est, c'est-à-dire un système monétaire et financier, et même économique, néolibéral, qui s'est imposé après la chute du mur de Berlin, bien entendu, et dans lequel donc il y a une dizaine de points qui cadrent avec le néolibéralisme, qui cadre également avec la politique américaine, qui américanise le monde, c'est-à-dire la mondialisation américaine. Donc, avec, bien sûr, c'est-à-dire une certaine omniprésence dans des institutions multilatérales et même, on dirait, la manipulation de programmes et de financement de certaines institutions comme la Banque mondiale et le FMI. Donc, les BRICS viennent pour proposer une autre manière de voir le développement économique mondial, la coopération internationale, et de redéfinir aussi un peu les démarches des institutions issues des accords de Bretton Woods en 1944. Donc, donc les BRICS ont mis d'ailleurs même une nouvelle banque de développement, hein, bien sûr, dédié aux pays des BRICS en premier temps. Et les BRICS veulent, en quelque sorte, peser dans l'échiquier économique mondial et même politique, parce que c'est inséparable, en quelque sorte. Donc, cela, on le constate maintenant avec leur émergence. On continue toujours à les appeler par l'Occident les émergents, alors que c'est des pays carrément développés, hein, ils sont développés, ils ont réalisé des avancées, je dirais, de pas de géant en termes de développement. Maintenant, les BRICS, c'est 25% du produit intérieur brut mondial, hein, c'est environ 24 000 milliards de dollars de PIB.
Il s'achemine vers 40% d'ici 2025, selon les estimations des institutions internationales.
Tout à fait, hein, c'est-à-dire, bien sûr, en perspective, les pays des BRICS Si on rajoute d'autres pays aussi, comme l'Algérie, éventuellement d'autres pays comme le Mexique aussi, qui pourraient intégrer les BRICS, et d'autres pays africains, hein, on pourrait même asiatiques ou arabes, donc on pourrait y aller vers d'ici à moyen terme, hein, d'ici 2030 au moins, c'est-à-dire à long terme, 2030, 2035, on pourrait avoir carrément la moitié du PIB mondial. Mais ce qui est aussi, ce qui est quand même un élément de légitimation des actions des BRICS actuellement est fondé sur même d'abord leur étendue géographique et leur population. Ils comptent 40% de la population mondiale. Donc, c'est plus de 3 milliards d'habitants. Donc, cela aussi exige une certaine redéfinition des centres de décision politique internationale, c'est-à-dire les centres de décision de la politique internationale actuellement qui sont toujours dans le G7, etc., et toujours dans le consensus de Washington, dans le, c'est-à-dire le, un peu un monopole occidental de la décision politique mondiale au niveau des Nations Unies. Donc, cela, en quelque sorte, est un élément de ségrégation à l'égard d'une grande partie de la population mondiale. Donc, les pays des BRICS maintenant, ils sont à plus de 3 milliards d'habitants. Donc, même sur le plan de décision politique mondiale, ces pays ont leur mot à dire et leur poids. Donc, c'est pour cette raison que même la question de réforme des institutions de coopération internationale, des institutions multilatérales, se pose également.
D'accord. Une autre question, c'est, vous l'avez déjà évoqué en quelque sorte, c'est la volonté de l'Égypte aussi d'adhérer à cet ensemble. Alors là, si l'Algérie et l'Égypte arrivent à adhérer et que leur demande est acceptée, ça serait un axe très très intéressant pour le Maghreb, qui pourrait tirer le Maghreb dans le cadre de cette coopération avec les BRICS et même faire une jonction avec les pays du Moyen-Orient qui seront, dont il y a aussi certains qui sont déjà en lice comme l'Arabie Saoudite. Comment voyez-vous cette chose et d'un point de vue de la diversification des économies africaines, le besoin de développer les infrastructures, comment aussi voyez-vous l'apport des BRICS dans ce domaine?
Oui, vous savez que la Chine, elle a beaucoup de mérite d'avoir tiré l'économie brésilienne. La Chine, elle a énormément investi au Brésil. Et maintenant, on voit le Brésil avec un PIB de, si je ne me trompe pas, le Brésil est allé à 1600 milliards de dollars de PIB. Hein? Il est un pays quand même plus qu'émergent, un pays développé, on peut dire. Bien sûr qu'il y a un problème de développement qualitatif, la pauvreté, et j'espère maintenant avec le retour du Lula, donc ça va être un développement qui sera orienté davantage vers les couches sociales. Donc, Lula, le président réélu récemment, pourrait bien sûr corriger un certain nombre de reculs en termes de développement qualitatif sur le plan social. Mais tout de même, il faut noter que c'était Lula qui a introduit le Brésil dans ce groupe des BRICS. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, et il faut dire que, il y a une intégration intra-BRICS très forte et celui qui tire la croissance et le développement, c'est bien entendu la Chine. C'est le deuxième PIB mondial avec 18 000 milliards de dollars. Et la Chine, il faut le dire aussi, est le premier partenaire de l'Afrique. Hein? Il y a 20 ans, c'était la France qui est le premier partenaire de l'Afrique sur le plan économique et commercial. 20 ans après, c'est la Chine qui est le premier partenaire de l'Afrique sur tous les plans. Et je rappelle que l'Algérie a renouvelé son accord stratégique global avec la Chine hier. C'était un quinquennat qui concerne pratiquement tous les secteurs d'activité. La Chine est le premier partenaire de l'Algérie sur le plan économique et commercial. Et c'est le premier investisseur. Le stock des IDE chinois en Algérie s'élève à plus de 13 milliards de dollars. Donc, la Chine également est très fortement présente en Égypte, très fortement présente au Nigeria, très fortement présente en Afrique du Sud. Donc, les investissements de la Chine, de l'Inde, de la Russie également, et même du Brésil, vont tirer davantage vers le haut la croissance économique africaine, des pays africains, au moins les quatre PIB de l'Afrique, et avec leur système de financement du développement, la nouvelle banque de développement des BRICS également, qui finance des projets d'infrastructures, des projets aussi, même de transition énergétique, par exemple. Donc, c'est tout ça pourrait tirer vers le haut les croissances économiques. C'est pour cette raison que l'Algérie, on peut dire que l'Algérie, par exemple, il y a avec les BRICS déjà bien avant, c'est-à-dire même Brésil, le Brésil, les dernières statistiques, je crois, des quatre premiers mois de 2022, du commerce extérieur, nous avons remarqué la remontée du Brésil comme fournisseur important, je crois troisième ou quatrième fournisseur de l'Algérie. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a même le Brésil maintenant à sa place de avec l'Algérie en termes du commerce extérieur. Donc, l'investissement direct étranger de ces pays à travers leurs grandes entreprises, mais aussi à travers le transfert de la technologie, à travers le transfert du management de projets notamment, de transfert de la gouvernance, du système de gouvernance en termes d'efficacité managériale, et à travers aussi, bien sûr, la recherche scientifique, la recherche et développement. Donc, ça pourrait donner un coup d'accélérateur au développement des pays comme l'Algérie, et ça va mettre et ça va accélérer même l'intégration économique africaine sur le plan commercial, parce que l'Afrique est actuellement sous-industrialisée et même sous-exploitée sur le plan agricole. Donc, il a besoin de développer ses investissements, et donc on a besoin des IDE des grands pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde et comme le Brésil pour pouvoir mettre en valeur ce potentiel de ressources très important en Afrique et industrialiser davantage ces pays, mais aussi, bien entendu, donc développer leur intégration même commerciale et leur capacité d'exporter vers d'autres pays du monde.
Je vous remercie, Monsieur Achir, pour toutes ces informations et ces éclaircissements. Je souhaite vous retrouver dans un autre entretien. Au revoir. Merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Vous écoutez Spoutnik Afrique. C'est Mohamed Achir, économiste et enseignant à l'université Mouloud Mamri à Tizi Ouzou. Dans cette première partie, notre invité estime que l'Algérie, comme les autres pays africains, a beaucoup à gagner sur tous les plans en coopérant avec les BRICS, notamment en termes de diversification de l'économie avec l'introduction de technologies et d'industries de pointe que les BRICS sont prêts à fournir. Chers auditeurs, dans la seconde partie de notre émission L'Afrique en marche, nous recevrons Lakshmi Siyar, expert financier international et ancien dirigeant de banque d'affaires, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Restez à notre écoute, à tout de suite. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche, présentée par Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Lors du Forum sur l'investissement en Afrique tenu la semaine dernière à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le gouverneur de la Banque africaine de développement a affirmé que l'estimation des risques d'investissement dans le continent est exagérée. Cela pénalise considérablement l'Afrique en termes d'attractivité des capitaux, en particulier pour les projets d'infrastructure. À titre de comparaison, il a expliqué que les défauts de paiement en Afrique sont de 5,5%, alors qu'en Europe occidentale, ils sont actuellement de 5,9%, en Asie de 8,8% et enfin en Amérique latine de 12,9%. Où se trouve donc le nœud gordien de cette situation et comment y remédier? Un nouveau système financier et monétaire eurasien, alternatif à celui dominé par les Occidentaux, a été discuté fin octobre à Bakou, en Azerbaïdjan, lors du 15e Forum économique eurasien. Ce nouveau système serait-il la clé de voûte pour sortir notamment les pays africains du diktat du système occidental, notamment du franc CFA? Pour en parler, nous avons reçu sur les ondes de Spoutnik Afrique Lakshmi Siyar, expert financier et ancien dirigeant de banque d'affaires.
Monsieur Lakshmi Siyar, bonjour. Nous sommes très honorés et très heureux de partager ce dialogue avec vous. Après le premier que nous avons eu, ça fait déjà quelques semaines.
Oui, merci beaucoup de m'inviter. C'est pour moi aussi un grand plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous.
Merci beaucoup. Alors, ma première question concernant ce problème-là des investissements en Afrique, pourquoi, notamment étrangers, pourquoi ils ne décollent pas? Et est-ce que vous pensez que les agences de notation et d'évaluation des risques qui sont occidentales dans leur majorité le font sciemment et à dessein, ou y a-t-il d'autres raisons, notamment endogènes, aux économies africaines et qui entravent la venue d'investisseurs étrangers?
Oui, c'est une question très, très importante parce que quand on parle d'investissement et quand on parle d'agence d'analyse des risques, donc il y a deux types d'investissement et deux types d'agences. Quand on parle des infrastructures, par exemple, c'est un type d'agence qui intervient. Quand on parle d'investissement en général, c'est un autre type. Par exemple, lorsque un pays veut lever des fonds pour financer de l'infrastructure ou financer ses besoins en tant qu'État, généralement, il s'adresse au marché financier. Et dans ce cadre-là, ce sont les agences qu'on appelle les trois ou les quatre grandes agences qui interviennent, parce que ce sont des agences qui notent la dette de ce pays, ce qu'on appelle les CDS, Credit Default Swaps en anglais. Et là, on a affaire à des agences comme Standard & Poor's, comme Fitch IPCA ou comme Moody's. Là, ce sont les grandes agences.
C'est donc, juste pour nos auditeurs, les CDS en français, c'est les assurances contre les risques de faillite ou les risques de défaut de paiement. Voilà, ce sont des produits financiers d'assurance qui permettent aux créditeurs de se protéger.
Exactement. Et donc, ces agences-là interviennent pour permettre à un pays d'aller sur le marché financier et lever des obligations. Soit en dollars, soit en euros, etc. Et pour accéder à ce marché donc des obligations, ce qu'on appelle les eurobonds ou bien les dollar bonds ou les samurai bonds, etc. Donc il faut avoir une notation. Et donc ces agences notent le pays et pour pouvoir aller sur ce marché. Et pour pouvoir aller sur ce marché, généralement il faut avoir une note, ce qu'on appelle une note investment grade, c'est-à-dire à partir de 3B, c'est-à-dire on vous prête sur votre simple signature. Vous n'avez pas besoin de donner de collatéral ou de garantie. Donc 3B jusqu'à 3A. 3A, c'est la meilleure notation possible. Et les pays qui ont un 3A se comptent sur les bouts des doigts. Donc il y en a pas beaucoup. Et sinon, à partir de moins de 3B, donc on tombe dans ce qu'on appelle les obligations à risque. Et là, il faut donner des garanties, il faut que ce soit d'autres intervenants comme les banques régionales qui peuvent vous garantir ou autre chose pour pouvoir lever des fonds. Et donc, généralement, ces agences notent le pays. Souvent, les notations, on appelle ça des notations sollicitées parce que c'est le pays qui la demande ou bien des notations non sollicitées. Donc, c'est l'agence qui l'a fait et la propose au gouvernement. Donc, le gouvernement a le choix. S'il est satisfait, il peut la publier. S'il n'est pas satisfait, eh ben, il leur dit ne la publiez pas parce qu'elle est non sollicitée.
Mais est-ce qu'elle est donnée justement au bailleur de fonds, cette notation? Est-ce que justement elle est...
Justement, elle est faite, elle est destinée au bailleur de fonds pour pouvoir savoir quelle notation le pays a obtenue et pour pouvoir déterminer le taux d'emprunt, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel il peut emprunter ou les différentes commissions, etc. et les différents arrangements légaux qui peuvent être mis en place pour que le pays puisse emprunter sur la durée et généralement pour pouvoir donner donc cette notation. Généralement, ces agences regardent le profil de remboursement de la dette. Est-ce que ce pays-là génère suffisamment de revenus pour pouvoir faire face à ces échéances? Est-ce qu'elle a des revenus en dollars, des revenus en devises étrangères ou des revenus locaux qui peuvent être transformés encore en devises pour pouvoir faire face à ces obligations? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il regarde le profil de la dette, il regarde le profil également des flux pour rembourser la dette éventuelle, et il regarde bien sûr les capacités du pays en général. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, ce sont ce qu'on appelle les agences d'assurance crédit qui interviennent, par exemple vous avez la COFACE en France, vous avez le CGD, vous avez SACE en Italie, vous avez CCE en Espagne. Et donc ces agences d'assurance crédit font partie d'une union qu'on appelle l'Union de Berne. L'Union de Berne regroupe donc tous ces assureurs, généralement des pays occidentaux, incluant également la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, etc., qui sont membres. Donc ces pays-là se concertent et s'échangent de l'information sur les différents pays de la planète. Donc si un pays fait défaut ou a des problèmes de paiement, ils sont tous informés. Donc si, par exemple, moi, je suis l'agence d'assurance crédit de la Suisse ou bien de la Suède, j'ai un client qui se trouve dans un tel pays qui a fait défaut, et ben tout le monde est informé de ce défaut là et ajuste leur situation. Et donc ces agences là ils ont des notations pour chaque pays, et c'est à partir de cela, lorsque par exemple un exportateur ou un investisseur va aller dans un pays, donc il s'adresse à eux et il demande une couverture d'assurance. Et donc, c'est en fonction de la notation qu'ils ont faite de ce pays, soit pour exporter des produits, soit pour exporter des machines, les pays sont donc classés en catégories. Catégories A, B, C, D, en fonction de leur risque. Et c'est le même processus que les premières agences. Donc, ils notent ce pays, ils lui donnent une notation. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les pays, par exemple, en Afrique, on dit que, par exemple, que les risques sont très élevés. Le problème, c'est que...
Non, c'est le gouverneur de la Banque de développement africaine, donc, qui dit que les risques sont trop exagérés, laissant entendre, il a déclaré ça lors du sommet d'Abidjan sur l'investissement en Afrique, laissant entendre qu'il y a des velléités politiques derrière ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, parce que il faut savoir que les agences d'assurance crédit ou les agences de notation prennent d'autres facteurs que je n'ai pas mentionnés dans ce que j'ai dit auparavant. Généralement, on regarde la gouvernance du pays. Est-ce que le pays est bien gouverné? Quand on parle de gouvernance, il y a quatre éléments très importants qui sont pris en considération. Il y a la transparence. Est-ce que ces pays-là sont transparents? Est-ce qu'il y a l'information nécessaire? Et ça, c'est un élément très important pour les bailleurs de fonds, pour les investisseurs, qui est pris en compte. Le deuxième facteur de la bonne gouvernance, c'est ce qu'on appelle le check and balance en anglais, ce qui veut dire les la reddition, le, comment dirais-je, le, les contre-pouvoirs. C'est-à-dire, dans un pays, il ne faut pas que ce soit une seule partie qui décide sans qu'il y ait de contre-pouvoir. Ça, c'est un élément important. Le troisième élément important, c'est ce qu'on appelle la reddition de comptes, c'est-à-dire accountability en anglais, la reddition de comptes, c'est-à-dire que les gestionnaires doivent rendre compte des décisions qu'ils prennent, etc. Un quatrième facteur qui est très important qu'ils regardent, c'est la compétence. Est-ce que les gens qui gèrent, qui vont gérer l'argent qu'on va leur confier, sont compétents? Souvent, malheureusement, dans les pays, dans certains pays, donc les gens qui sont en poste sont au poste parce que ils sont fidèles à tel dirigeant, ils sont font partie du clan de tel dirigeant, etc. Et ce n'est pas la compétence qui prime. Donc ça, ce sont des éléments importants qui sont pris en compte, et s'ils ne sont pas satisfaisants, les gens ne viennent pas. Un autre facteur qui est important, que tout le monde connaît, c'est que la plupart des pays africains font face à ce qu'on appelle le contrôle d'échange. Quand on a le contrôle d'échange, ça veut dire que la devise ne circule pas librement et qu'il faudrait demander l'autorisation pour transférer ses bénéfices quand on fait des bénéfices. Et ça, c'est des fois, il y a beaucoup d'entraves qui sont mises, et souvent le pays n'a pas de ressources en devise étrangère pour pouvoir permettre aux entreprises de transférer. Donc, ça, ce sont des éléments objectifs. Un autre élément qui est très important pour les investisseurs, c'est la bureaucratie. Souvent, beaucoup de pays ont des lois qui sont au top, qui sont aux normes internationales, mais dans la pratique, il y a des difficultés au niveau de l'administration. Des obstacles, les gens exploitent les zones grises des lois pour les interpréter à leur avantage, etc., pour pouvoir faire des obstacles, pour pouvoir obtenir des avantages de la part de l'investisseur. Donc, ce sont des éléments qui sont pris en considération, et donc je ne pense pas que les agences le font sciemment. Parce que ce qui les intéresse, c'est augmenter leurs exportations, augmenter les flux d'investissement. Parce qu'un investisseur va dans un pays, c'est pour pouvoir faire de l'argent tout en développant un projet. Donc voilà, à mon avis, les éléments qui rentrent en jeu.
La deuxième question, Monsieur Sia, que j'aimerais bien vous poser, c'est les investissements, bien sûr, en plus de le fait d'avoir des fonds, il y a d'autres conditions. Et cela, est-ce que vous pensez que les pays africains disposent des infrastructures nécessaires pour attirer justement des investissements étrangers dans des domaines de l'industrie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, tout ce qui peut assurer la vie?
Effectivement, la plupart ou la majorité des pays africains, des opportunités sont extraordinaires. Donc, les rendements sont très élevés. Le problème se trouve au niveau, ce n'est pas au niveau de l'infrastructure, des poids, des défauts, etc., mais ce n'est pas le problème majeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont enclavés, qui n'ont pas de port, qui n'ont pas de chemin de fer, de route pour exporter leurs produits ou pour recevoir donc des marchandises. Quand on prend un pays comme la République centrafricaine, par exemple, c'est un pays enclavé. On ne peut pas y aller. Quand on va au Mali, c'est un pays enclavé. Le Tchad est un pays enclavé. Bien que ces pays aient des ressources, que ce soit le Tchad ou le Niger, ils ont des ressources pétrolières, etc. Le problème, donc, c'est de créer les infrastructures pour pouvoir les acheminer. Les investisseurs étrangers sont attirés par un pays lorsque ils voient que les entrepreneurs locaux sont bien traités par leurs autorités. Mmh. S'ils sont bien traités, donc ils vont y aller. Le deuxième facteur, il faudrait que dans ces pays-là où ils vont, il faut qu'ils trouvent une capacité de sous-traitance. Souvent, les investisseurs étrangers sont de grandes entreprises et ils ont besoin d'inputs qui doivent être fournis localement. Donc, Je prends un exemple banal, IKEA qui doit s'implanter dans un pays. Pour s'implanter, il faudrait qu'elle trouve des PME locales qui puissent lui fournir des intrants, donc des produits, pour qu'elle puisse les vendre sur dans ces magasins. Donc ça c'est un exemple banal. Souvent, donc cette infrastructure ou ce réseau de PME n'existe pas. Et donc il faudrait que les autorités locales créent ces PME qui peuvent venir en soutien aux grands investisseurs étrangers qui puissent venir. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet.
D'accord. Donc, pour la troisième question, s'il vous plaît. Alors, au-delà de ce que nous venons d'évoquer, qu'en est-il des contraintes liées à l'accès au financement? Je parle au sein des pays africains. Les problèmes qui sont liés à la corruption, le crime, les pratiques non concurrentielles, comme le secteur informel, l'instabilité politique, les taxes et réglementations, l'efficience judiciaire, il manque de main-d'œuvre qualifiée pour attirer des entreprises qui peuvent transférer de hautes technologies et à haute valeur capitalistique.
Oui, donc c'est le problème que j'ai abordé tout à l'heure par le biais de la gouvernance. Mm-hmm. Donc, quand un pays est bien gouverné, il y a la transparence, il y a la reddition de comptes, il y a les contre-pouvoirs, il y a la compétence. Donc c'est un pays où les investisseurs aiment aller. Donc, quand ces conditions existent, le financement vient aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Si on prend par exemple le financement de projets structurants, supposez par exemple que vous voulez construire un port, vous voulez construire un aéroport, vous voulez construire un pipeline, vous voulez construire, un projet gazier ou pétrolier. L'argent vient lorsque le financement de ce projet rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un financement structuré. Mm-hmm. Un financement structuré, ce sont les BOT, par exemple, ce qu'on appelle les BOT, Build, Own and Transfer, c'est-à-dire on construit le projet, on le possède, on l'exploite pendant un certain temps, ensuite on le transfère au pays. Et généralement, pour que ces financements fonctionnent, ce qu'on appelle les BOT, les concessions, il faudrait que, au bout de la ligne, dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait deux éléments importants. Il faudrait qu'il y ait un acheteur étranger qui puisse acheter les produits que ce projet génère et qu'il puisse payer en devise pour pouvoir rembourser les prêts étrangers. Et de l'autre côté, au début de la chaîne, il faut qu'il y ait un intrant important, que ce soit une matière première importante. Par exemple, s'il s'agit d'un pipeline, il faut qu'il y ait une société qui fournisse le gaz ou le pétrole à un prix donné et ce prix, il faut qu'il soit fixé pendant une période donnée et l'output doit sortir à un prix donné pendant une certaine période pour pouvoir fixer les éléments du financement. Et ça, ces financements structurés fonctionnent très bien. Ils sont peut-être un peu lourd parce que le projet nécessite des études, nécessite d'étudier les problèmes juridiques inhérents à ce projet, les problèmes fiscaux inhérents à ce projet. Tout est calculé de façon extrêmement précise. Et ces projets-là ne nécessitent pas la garantie de l'État, par exemple. L'État n'a pas besoin de donner sa garantie ou bien aller chercher des financements, c'est le projet qui se finance par lui-même. Mm-hmm. Donc, ce sont les actifs de ce projet et surtout, le plus important, c'est le contrat d'achat, de livraison, ce qu'on appelle le contrat généralement take-or-pay. C'est-à-dire que l'acheteur étranger doit payer à une échéance donnée le produit. Soit que le produit soit livré ou qu'il ne soit pas livré. S'il y a par exemple un incident ou des problèmes, il est obligé de payer pour pouvoir faire face au remboursement du projet. Donc, ces financements structurés fonctionnent très bien à travers la planète. Et donc, il faudrait que en Afrique, il y ait les conditions de bonne gouvernance pour pouvoir bénéficier de ce type de financement dans lesquels les ressources de l'État ne sont pas utilisé de façon importante. Donc ça, c'est un aspect très important. C'est la même chose pour les concessions. Donner un aéroport ou un port en concession à une entreprise, cette entreprise, elle va payer des royalties à l'État qui vont permettre de rembourser l'investissement ou elle-même, elle réalise le projet et le gère pendant un, un certain nombre d'années. Le problème donc que vous avez soulevé, qui se pose dans la réalisation de ce type de projet ou dans notre projet, c'est la compétence. Malheureusement, à cause de la mauvaise gouvernance dont je parlais tout à l'heure, la plupart des cadres africains souvent partent à l'étranger. Donc, vous allez les trouver en Angleterre, vous allez les trouver en France, vous allez les trouver au Canada, aux États-Unis, et les pays africains se vident de leurs cadres compétents. Et quand un pays n'a pas de cadre compétent, donc les entreprises étrangères ne viennent pas investir parce que ils n'ont pas la ressource. Déménager, par exemple, un cadre de Londres ou de Paris, ça leur coûte énormément cher. Parce qu'il y a les frais d'expatriation, il faut le payer, il faut lui procurer du logement, les avantages sont très très importants. Et les salaires en Europe, aux États-Unis, ne sont pas les mêmes salaires qu'en Afrique. Le niveau de vie est différent. Donc là, ce sont des facteurs très importants. Ajouté à cela, bien sûr, dans un bon nombre de pays africains, on ne peut pas bouger sans que l'administration ne fait pas des obstacles pour que les gens qui travaillent dans ces rouages-là ne demandent pas des compensations ou ce qu'on appelle la corruption, tout simplement. Ouais. Donc, ils ne vous signent pas un papier pour pouvoir exporter vos bénéfices ou pour pouvoir démarrer le projet ou pour pouvoir faire cela sans que vous le payiez. Et ça, c'est décourageant pour les investisseurs étrangers. Donc ça, ce sont des freins à l'investissement, bien que les lois soient des lois très ouvertes, très intéressantes, etc. Donc ce n'est pas suffisant. C'est ça ce qu'on appelle l'environnement le climat de l'investissement. Lorsque le climat de l'investissement n'est pas bon, eh ben, ça ne fait pas venir, même si le pays n'est pas endetté. Beaucoup de pays ne sont pas endettés, par exemple, n'ont pas de dette. Donc, c'est un élément qui n'est pas suffisant. Même si le pays n'a pas de dette, ça n'attire pas forcément les investisseurs parce que les éléments dont je parlais sont là et constituent un obstacle. Voilà ce qu'on peut dire.
Donc, et je voudrais que vous nous disiez un mot sur le marché parallèle ou le marché informel, qui est pratiquement présent dans tous les pays africains et qui constitue un cancer à l'intérieur de l'économie, qui draine énormément d'argent hors le circuit officiel contrôlé par les banques ou par la banque centrale ou par l'État et qui a des règles à lui. Et ne pensez-vous pas que cela peut décourager aussi n'importe quel investisseur qui voudrait venir parce que il n'y a pas de règles de concurrence et de protéger. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au brevet, par exemple?
En fait, dans certains pays, le marché informel est tellement important que le marché formel devient de l'exception. Donc, c'est malheureusement, c'est pour ça. Et le marché informel, pourquoi il se développe? Il se développe à cause des contraintes bureaucratiques dont j'ai parlé tout à l'heure, à cause de la fiscalité des fois qui n'est pas appropriée. À cause des financements bancaires qu'ils ne peuvent pas obtenir. Donc il faut pas jeter la pierre au secteur informel. Le secteur informel se développe parce qu'il y a carence autre part. Mm-hmm. Si autre part les choses étaient bien organisées, je pense pas que le secteur informel se développe autant. Parce que un pays a intérêt à augmenter l'assiette fiscale pour que tout le monde paye l'impôt. Et donc, s'il y a beaucoup d'impôts, on dit l'impôt tue l'impôt, donc les gens vont aller vers des opérations ou vont s'organiser autrement pour pouvoir fuir l'impôt, pour pouvoir ne pas donner de facture, pour pouvoir ne pas payer la TVA, etc. Donc, c'est un phénomène qui existe dans beaucoup de pays, surtout dans les pays en voie de développement. Il y a des gens qui ont étudié ce problème de façon très précise. En particulier, il y a un ancien gouverneur de la Banque centrale du Pérou, je crois, j'ai oublié le nom, qui j'ai assisté à certaines de ses conférences, qui a fait de, qui a fait des études assez intéressantes dans des pays comme l'Égypte, par exemple, ou rien que, par exemple, dans la construction, dans le domaine de la construction. Il y a des gens qui vont construire sur un immeuble qui existe, ils vont construire d'autres étages sans respecter la réglementation, sans respecter aussi parce que le système en place, les organisations ne font pas leur métier de contrôle et autres. Pour pouvoir faire, comment dirais-je, régler ce problème d'informel, il faudrait peut-être voir au niveau de l'État lui-même. Il faut que l'État donne l'exemple. Par exemple, beaucoup d'États vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, il faudrait réduire la voie. Beaucoup d'États, par exemple, donnent des... Par exemple, lorsque des fonctionnaires partent en formation, sont vraiment des formations de complaisance. Il y a des ce qu'on appelle des postes fictifs dans l'administration. Des gens qui reçoivent des salaires, il y a des gens qui reçoivent des bonifications, des bons d'essence, des voitures. Et ils vont faire des missions sans vraiment des missions de complaisance. Donc tout ça, ce sont des charges très importantes que l'État supporte, alors que ce sont des fonds qui peuvent aller à développer l'infrastructure, à aller mettre en place des procédures qui allègent le fonctionnement de l'organisation, le fonctionnement de l'administration pour pouvoir permettre au secteur informel de son côté de réduire la voilure. C'est un fléau parce que de l'autre côté aussi parce que l'État est incapable de créer des emplois pour pouvoir absorber la masse de gens qui sortent de l'université, qui sont des chômeurs, etc. Ils sont obligés d'aller créer des choses dans le secteur informel parce que de l'autre côté, sur le plan formel, il n'y a pas des emplois suffisants pour les accueillir. Donc c'est un tout, c'est pas un problème qui est simple à régler. Mais il faudrait l'attaquer et ne pas le laisser se développer de façon démesurée. Même en Europe, on a vu en Italie, par exemple, le secteur informel représentait jusqu'à 40%, disait-on, de l'économie nationale. L'économie souterraine existe aussi dans beaucoup de pays. Mais elle est dans des dimensions plus ou moins contrôlées. Mais dans nos pays en Afrique, malheureusement, c'est un problème assez sérieux auquel il faut faire face.
D'accord. Donc, en résumé, pour cette première partie, monsieur Sierre, le fait de ne pas être endetté, avoir des dettes énormes, n'est pas un facteur, bon, c'est très important, mais ce n'est pas le facteur déterminant qui va inciter les investisseurs étrangers à venir investir en Afrique.
Oui, il n'y a qu'à regarder les pays développés, par exemple. La dette de la France est de 100, 115 ou 120% du PIB. Donc, le service de la dette est énorme. Chaque année, il paye 70 à plus de 70 ou 100 milliards d'euros de service de la dette. Donc, on ne parle pas de remboursement des échéances, mais uniquement le service. Donc, lorsque le pays a des capacités donc de générer des ressources, de générer des flux financiers, même si la dette est importante, il peut lever des fonds. Donc, c'est.
D'accord.
L'Afrique en marche a le plaisir de débattre avec Lakshmi Sierre, expert financier international et ancien dirigeant de banque d'affaires en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Spoutnik Afrique. Nous continuons à discuter avec Monsieur Sierre des problèmes financiers du continent africain, notamment du manque d'investissement, de la dépendance des systèmes bancaires africains à l'Occident et des possibles voies de sortie de ces impasses.
Monsieur Sierre, je vous salue à nouveau dans cette seconde partie de notre entretien. Et ma première question concerne la construction et la mise en place d'infrastructures. Donc, pour bâtir des infrastructures de base, nécessite des investissements publics colossaux. Et, or, beaucoup de pays africains, notamment ceux qui sont membres de la CEDEAO, ne peuvent tout simplement pas avoir les fonds nécessaires à cause du diktat du front CFA. Que doivent-ils faire, à votre avis, et par quels moyens pour se libérer de cette contrainte?
Écoutez, il y a les investissements en infrastructure sont assez importants. Et donc, les pays concernés peuvent avoir recours donc à des agences multilatérales, comme par exemple comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, comme la Banque européenne d'investissement, qui interviennent donc dans ces grands projets. Et généralement, quand ces institutions interviennent, c'est qu'elles ont bien étudié le projet et qu'elles peuvent ramener avec elles d'autres investisseurs privés. Des fois, ce sont des fonds qui participent en equity dans le projet, c'est-à-dire participent au capital. Et des fois, ils viennent en dette, donc amener de la dette. Et généralement, ces fonds-là n'interviennent que lorsque le projet est bancable. Lorsqu'il s'agit d'une infrastructure qui n'est pas bancable, qui est bonne pour l'économie, pour développer l'infrastructure du pays, c'est un peu plus difficile d'amener ces organismes, à moins que le pays a les moyens de rembourser les prêts. Donc, effectivement, les pays de la CEDEAO ont quelques difficultés donc à lever des fonds, et des fois même les organismes régionaux rechignent à leur prêter. Et le problème, bien sûr, revient toujours à la question de bonne gouvernance. Lorsque un pays est bien géré, il peut attirer des fonds. L'autre facteur, c'est que il y a des interventions extérieures. Les pays de la CEDEAO ont un lien historique avec la France, par exemple, au niveau de du franc CFA, au niveau des dépôts qu'ils doivent faire à la Banque centrale française, etc. Donc ça, ce sont des éléments auxquels les gouvernants doivent étudier et voir comment régler ce problème-là, parce que ça constitue probablement l'un des freins importants donc à leur indépendance financière et aller chercher d'autres fonds. Parce que maintenant, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire, parce qu'il y a une révolte un peu internationale à cette hégémonie de l'Occident et principalement des États-Unis. Peut-être à l'avenir, les choses vont probablement changer avec l'intervention d'autres puissances qui viennent investir en Afrique. On a vu la Chine qui est investie en Afrique, on a vu la Russie qui vient également. L'Inde est également présente dans les pays de l'Afrique de l'Est, probablement. Et d'autres pays qui vont venir investir en Afrique. Les pays occidentaux ne veulent pas, bien sûr, laisser cette dernière frontière à ces pays-là et s'engage également à investir en Afrique. Donc il y a une course qu'on est en train de voir se dessiner entre ces différents pays sur le continent africain.
D'accord. Donc l'autre question, elle concerne la situation actuelle. Donc il est clair que les pays occidentaux, le monde occidental en général, traverse une crise profonde économique et financière, voire sociale et politique. Et pour cause, c'est les dettes abyssales des pays, le dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement, notamment après la crise de Covid-19, la crise énergétique actuellement, comme effet boomerang des sanctions contre la Russie, l'inflation qu'elle génère, et puis les dépenses militaires qui n'arrêtent pas au même moment, accompagné de guerres par-ci et par-là. Or, tous ces problèmes ne sont que les symptômes d'une crise ou d'un problème structurel qui découle d'une faille dans le système tel qu'il est fait et qui revient à la question de la base monétaire fractionnaire dont le mode de fonctionnement du système financier monétaire international dominé par les Occidentaux. À votre avis, que peut-on faire justement pour sortir de là, alors que la dernière semaine, au sommet de Bakou, lors du Forum économique eurasien, les participants ont justement poussé vers la création d'un système financier et monétaire alternatif et qui n'est pas les mêmes problèmes du système actuel et qui probablement va donner les moyens aux États de s'épanouir du diktat financier.
En fait, le problème remonte aux accords de Bretton Woods et à la façon dont fonctionne le système, notamment le dollar. Vous savez, le dollar n'est adossé sur aucune garantie. Donc, il n'y a plus le dollar qui est garanti par l'or, etc. Donc, cette dissociation a été faite par Nixon en 72, je crois. Et depuis, donc, les États-Unis.
En 71.
Donc, c'était les États-Unis depuis utilisent le dollar comme monnaie de référence, comme monnaie de transactions internationales sans qu'il y ait une garantie, donc, du papier qu'ils émettent. Donc, depuis, c'est la planche à billets aux États-Unis pour financer leur économie. Et tout le monde utilise le dollar. Tout le monde dépose ses ressources en dollars aux États-Unis. Et c'est ainsi que le monde fonctionne depuis. Et donc, tout le monde finance l'économie américaine avec les dollars qu'il détient. Et donc, maintenant, on assiste à un réveil au niveau international. Beaucoup de pays disent que cette façon de faire ne peut pas continuer. Mmh. Et aujourd'hui, quand on voit également les banques centrales, ce qu'elles ont fait pendant la période Covid et avant, avec ce qu'on appelle le quantitative easing, donc la planche à billets, en quelque sorte, a injecté des liquidités dans l'économie assez importantes, a racheté les dettes des entreprises, a racheté les dettes des États à Abu Dhabi. Et donc, ces États-là, ils sont dettes sans fin. Ils sont incapables de rembourser leurs dettes, les États européens aujourd'hui. Donc, ça, c'est un facteur très déstabilisant pour ces économies. Donc, une crise de la dette souveraine n'est pas à exclure à court moyen terme. Et cet aspect-là pèse énormément sur les économies de ces pays. Donc, les banques centrales aujourd'hui de ces pays sont confrontées à ce dilemme-là. Ces pays-là sont incapables de rembourser et ils ont toujours besoin de plus d'argent. Que faire? Et le problème, c'est que depuis un certain temps, avant, les États allaient à la Banque centrale pour emprunter. Maintenant, ce sont les banques qui vont chercher l'argent auprès des banques centrales, ils les prêtent aux États. Mmh. Et donc, pourquoi? Parce qu'on dit que si les banques centrales prêtent aux États, ça veut dire qu'il va y avoir une exagération dans la dette et l'emprunt, etc. Mais cette exagération, on la voit aujourd'hui d'une autre manière avec la monnaie qui est injectée un peu partout dans ces pays-là. Donc, le système actuel ne peut pas continuer, a besoin a besoin d'être revu. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui l'émergence de ce que vous avez appelé d'un système alternatif ou d'un système parallèle, comme celui qui a été discuté dans la dernière réunion en Azerbaïdjan. Seulement aujourd'hui, les pays comme la Chine, par exemple, avec le yuan ou avec le rouble ou avec la roupie, ce ne sont pas encore des monnaies de référence. Donc, ce ne sont pas des monnaies qui sont utilisées partout. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est un peu dans les transactions commerciales avec leurs partenaires d'utiliser cette monnaie. Donc, c'est un début. C'est un début. Et comme l'avenir se trouve en Asie, se trouve en Asie, donc dans le développement de ces économies, deux tiers de la population mondiale se trouve dans cette région. Donc c'est pour ça que on voit aujourd'hui une adhésion, des demandes d'adhésion au BRICS qui est en train de se faire. En plus, donc les cinq pays membres donc de cette organisation. En fait, pas une organisation, c'est un acronyme qui a été utilisé par un économiste de Goldman Sachs. Et donc aujourd'hui, on voit l'Iran qui veut rentrer, on voit l'Argentine qui veut rentrer, l'Algérie qui veut rentrer, et donc c'est un phénomène qui va, à mon avis, s'accentuer. Comment l'organiser? On a parlé aussi d'un système SWIFT alternatif entre ces pays-là, donc qui est en train de s'organiser. Donc c'est l'embryon de quelque chose qui, à mon avis, va se développer, va prendre de l'ampleur. Ce qui va accentuer ce phénomène, c'est un peu aussi les sanctions financières prises contre la Russie, le gel des avoirs de la Banque centrale russe. Donc, va encourager beaucoup de pays à réfléchir où est-ce qu'elles doivent déposer leur argent, les garder en dollars et en euros. Et ça, c'est un phénomène qui va avoir un impact, à mon avis.
D'accord. Je vous remercie, Monsieur Sia. C'était un plaisir et j'espère vous retrouver dans un autre entretien sur un autre sujet. Merci beaucoup.
Merci à vous. Le plaisir a été pour moi. Et je salue vos téléspectateurs.
Merci.
C'était Lakshmi Siyar, expert financier international et ancien dirigeant de banque d'affaires. Vous écoutez Spoutnik Afrique. Pour tirer le bilan de cette nouvelle émission, le nouvel ordre multipolaire en formation rapide depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine offre une chance inouïe pour les pays africains en matière de développement et de diversification de leurs économies. Cependant, les États africains sont également tenus de mener les réformes structurelles nécessaires pour asseoir la plateforme économique qui pourrait accueillir les différents secteurs de coopération avec les BRICS. C'était Kamal Louadj. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers auditeurs, au revoir.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.